Onde Noire, deuxième partie. Tu vas nous emmener dans l'univers d'un auteur dont on parle régulièrement ici, c'est l'univers de Thierry Bourcy.
Tout à fait, donc Thierry Bourcy, qui est, vous vous en souvenez peut-être, on en a parlé, le créateur de la série Célestin Louise, un flic dans la Grande Guerre.
C'est-à-dire la guerre de 14-18, des fois, on ne sait plus même.
Grande, c'est vraiment un mot.
Bon. Un drôle de qualificatif.
Exactement. Il revient ici avec un nouveau personnage qui s'appelle Joseph Kassoff, ou Kassoff, qui est un capitaine de la garde de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg. Donc Thierry Bourcy a écrit ce roman qui s'appelle « Le songe de l'astronome » avec un compère qui s'appelle François-Henri Soulier. Donc un livre à deux claviers, ou quatre mains. Il est publié dans la collection Grand Détective de 10-18. Bon, on n'est plus dans la Grande Guerre, une nouvelle époque et un nouveau lieu donc, puisque l'intrigue se déroule en 1601, en grande partie dans le superbe château de Betnaki, non loin de Prague. Le roi Rodolphe abrite dans ce château, dans son château, le grand savant et astronome, et aussi alchimiste, Tycho Brahe, ainsi que le non moins grand et fameux Kepler, qui est à cette époque-là l'adjoint de Tycho Brahe.
Donc là, on est vraiment dans le réel, puisque ce sont des personnages hautement connus, historiques et scientifiques.
Rodolphe inclus. Je l'appelle Rodolphe, évidemment. Rodolphe.
Bien sûr. Voilà.
Il donne une fête au cours, le roi donc donne une fête au cours de laquelle Tycho Brahe va décrire sa nouvelle théorie sur le cosmos. Malheureusement, surtout pour lui, peu après son exposé, on va le retrouver, Tycho Brahe, mort dans un des sous-sols du château dans lequel il s'adonnait à l'alchimie. Le capitaine Kassoff, donc le nouveau héros de Thierry Bourcy et donc de François-Henri Soulier, va mener l'enquête au nom du roi. Une enquête plutôt périlleuse, car parmi les invités de cette soirée se trouve un inquisiteur, l'ambassadeur du Danemark, on rappellera entre parenthèses que Tycho Brahe est danois d'origine, ainsi que, pour pigmenter l'intrigue, une espionne anglaise mais forte à corte, ou à corte mais anglaise. Ou anglaise et à corte.
Tu vas t'attirer les foudres de la perfide Albion, toi.
Tout à fait. Et les deux auteurs, donc, sont partis du mystère qui entoure toujours la mort de Tycho Brahe, un mystère qui est a priori non élucidé, et ils nous donnent leur vérité. Une vérité romanesque, certes, mais pas seulement, car le roman est fort bien documenté, et on se plaît à croire à la lecture de ce roman que la version de Thierry Bourcy et François-Henri Soulier, c'est la bonne. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qui a tué et comment.
C'est comme ça qu'on sait qu'un livre est réussi.
Exactement. En plus, au niveau de la pure intrigue, les deux auteurs savent y faire. Ils mêlent parfaitement les faits historiques. Ça, on connaît, donc, Tycho Brahe est mort empoisonné, a priori. L'empereur Rodolphe, c'est bien lui qui le recevait, etc. Et en plus, donc, de ces faits historiques, il y a des personnages de romans et des personnages romanesques. Il y a des scènes épiques, surtout vers la fin, c'est carrément du vrai capé d'épée. Il y a un petit peu de romance et de sexe, dans le sens contraire. Et de la science, bien évidemment. Tycho Brahe et Kepler, ce n'est pas n'importe qui. Kepler, lui, va rester sagement muet en présence du grand inquisiteur sur sa propre vision du monde, qui, pour le coup, à l'époque, était sacrément hérétique. Et comme le corps supplicié de Giordano Bruno est pratiquement encore chaud, ça fait à peine un an qu'il a été massacré, Kepler n'a pas franchement envie de subir la même chose, il lui reste encore pas mal de choses à découvrir. C'est bien pour nous d'ailleurs qu'il se soit tué à ce moment-là.
Il est dommage que les inquisiteurs n'en aient pas fait autant.
Exactement. Puis apparaîtront, entre autres, il y a beaucoup de personnages, surtout des personnages romanesques, mais il y a quelques personnages qui apparaissent en filigrane. En fait, c'est des silhouettes qu'on va croiser, essentiellement celles du peintre Archibaldo et de Caravaggio, qui est somme toute assez rare quand même dans un polar.
Mais qui sont tout aussi fort agréables.
Exactement, bien évidemment. Les lecteurs de Thierry Bourcy connaissent aussi sa fibre sociale, de nombreuses fois évoquée dans chacune des aventures, des enquêtes de Célestin Louise. On la retrouve ici aussi, quand il nous raconte les dessous pas très glorieux de la vie d'un château au XVIIe siècle. Danton Abbé, c'est carrément le Club Med par rapport au château de Prague en 1601. Ici, c'est son nouveau héros, Joseph Kassoff, qui se fait le messager de cette fibre sociale, comme je disais. En fait, une seule question n'est pas résolue à la fin du roman.
Qui a tué qui?
Non, c'est retrouvera-t-on le capitaine Kassoff dans une nouvelle enquête?
As-tu la réponse?
Ah ben non, je sais pas, j'interrogerai...
Ah ben la j'interrogerai collection...
J'interrogerai l'éditeur ou le Thierry Boursy si on a l'occasion de le croiser à un moment ou un autre. Généralement, voilà. Grand détective, c'est souvent des personnages récurrents. Mais pour l'instant, rien n'est annoncé.
Eh bien moi je vais aller un petit peu... On va revenir un petit peu dans le temps, mais on est quand même... au XXe siècle, avec un superbe roman, un roman de Bruce Olbert, un roman qui s'appelle L'heure de plomb, qui est dans la collection Nature Writing des éditions Gallmeister. Et c'est un roman qui est fort bien traduit par François Happ. J'ai dit XXe siècle, on se retrouve au début du roman, novembre 1918, une terrible tempête de neige s'abat sur l'état de Washington. Le personnage principal, enfin celui qui va devenir le personnage principal, Matt Lawson, y perd son frère jumeau Luke et aussi son père qui tentait de les rejoindre pour les aider puisqu'ils étaient tous les deux dans la tempête. Amputé, le terme n'est pas trop fort. Amputé d'une partie de sa chair, sa famille, Matt va commencer par errer à la recherche du corps de son père. Ce faisant, il va rencontrer et être aidé par Wendy, une belle jeune femme du village, dont il va tomber éperdument amoureux. Mais dans ce pays où la solitude est une loi incontournable, ce taiseux ne va rien dire et va en cachette lui apporter des preuves d'amour. Mais les mots manquent et les mots manqueront toujours. L'incompréhension grandit entre les deux jeunes gens. Wendy finit par le blesser d'un coup de carabine. Matt s'enfuit, mais pas pour la journée, pour des années d'errance, de labeur et encore une fois de silence. Alors, Wendy, consciente de sa faute, entame sa rédemption en allant vivre et faire vivre la mère de Matt. On pourra qualifier ce roman de western crépusculaire, c'est pas très original, mais pour autant ça correspond parfaitement à l'ambiance instillée avec beaucoup d'habileté par l'écrivain américain. La solitude dans ces grands espaces, le travail des journaliers dans les fermes isolées, qui tue ou vous endurcit. Dans cet, je cite pour Solbert, cet étrange pays que celui où le comportement d'un individu est en contradiction avec ses émotions. L'itinéraire de Matt, qu'on peut aussi voir comme un lonesome cowboy, passera par la ferme de Roland, un beau patriarche, propriétaire donc d'une ferme, d'un ranch, et son fils Horace, l'autre vision, alcoolique, mais débauché au grand cœur. Ainsi qu'un héros de cinéma, Matt trouvera peut-être son havre de paix, au prix évidemment des preuves qu'il s'inflige. L'heure de plomb, c'est aussi un grand roman noir, la faute, la rédemption, étant en filigrane des vies de Matt et Wendy. Wendy, elle reste. Le désespoir était sa seule habitude, pense-t-elle. Lui, Matt, part. Enclin à délaisser les autres au profit de sa propre compagnie. Seul, sans mots, sans pouvoir communiquer avec autrui, autrement que par des gestes frustes, des actes dérisoires, des essais de bravoure. C'est donc un grand roman noir, roman social. C'est aussi une fresque historique, puisqu'on est dans cette période du Dust Bowl, où, après la crise économique, les agriculteurs des grandes plaines subirent des tempêtes de sable à répétition. C'est peut-être même la première crise biologique et ça a jeté des milliers d'ouvriers de tâcherons sur les routes. Certes, ce récit est centré sur Matt et Wendy, mais ceux-ci croiseront de nombreux personnages secondaires que Bruce Olbert arrive à peindre, décrire avec une grande justesse et avec une plume toute en émotion. Ça va permettre un arrière-plan un peu historique, un peu social, esquissé, évoqué, sans pour cela que cela nuise au souffle de son histoire. Alors finalement, pourquoi vouloir à tout prix classer ce roman, le ranger dans une case? Ben non, juste à mettre à côté des livres qui vous marquent, qui laissent une empreinte forte, indélébile, dans la tête des lecteurs. Des mots qui résonnent sur l'essentiel d'une vie, ainsi que ceux, d'ailleurs, d'Emily Dickinson, dont les poèmes flottent ostensiblement du titre « L'heure de plomb » est sorti d'un de ses poèmes, mais aussi dans toutes les pages de ce formidable roman. Comme vous l'aurez compris, on aime beaucoup ce livre. Donc, « L'heure de plomb », Gallmeister, l'auteur en est Bruce Olbert. C'est son deuxième roman qui paraît chez cet éditeur après « Animaux solitaires », un roman aussi très noir et très dur. On va...
De la musique.
Ça irait avec un petit peu de musique, peut-être.
Voilà, de la musique, mais qui pourrait finalement pas mal correspondre un petit peu au roman de Bruce Olbert. C'est extrait du dernier disque de C6 Steve. L'album, tout comme la chanson que nous allons écouter, s'appelle « Keep that horse between you and the ground ». Donc, tu gardes le cheval entre toi et la terre.
C'est pas mal pour illustrer, effectivement, le livre.
Voilà, exactement. Donc, c'est un genre de blues, de country. C'est du C6 Steve.
Many things have been broken, full of rocks and stones, waiting for some bones as a token. When you're on the trail, you gotta watch for them holes. When you're riding, when you're riding, a one wrong step can be your soul. You gotta keep that horse between you and the ground. You gotta keep that horse between you and the ground. You gotta keep that.
You and the ground. Gotta keep that on the green, yeah, you and the ground.
Creed, C6 Steve, on va revenir alors là dans un univers alors vraiment totalement différent, avec une bande dessinée, une superbe BD qui regroupe l'adaptation de 4 nouvelles de Carlos Salem, extrait d'un recueil qui était paru en espagnol sur le titre de, alors attention, Yo lloré con Terminator 2, soit en français, c'est plus facile, J'ai pleuré en regardant Terminator 2. C'est des nouvelles qui sont non éditées en français pour l'instant, mais dont on peut profiter grâce à Laureline Mathiusi, donc, qui est la dessinatrice de cette BD. Donc la BD s'appelle « Je viens de m'échapper du ciel », ce qui est un titre parfaitement salémien, si je puis dire.
Le premier aussi, Terminator 2, c'était voilà. Aussi bien et, de Carlos Salem.
Voilà. Et c'est paru donc chez Casterman dans la collection Écriture, très belle collection. C'est une bande dessinée de 195 pages, en noir et blanc, des dessins à l'encre sur un très beau papier épais mat. La BD commence par un prologue de 20 pages, quasiment muet, seulement 3 petites bulles à la fin, qui nous permettent de nous plonger dans l'univers à la fois sombre et onirique de Carlos Salem. La lune, un bord de route, 2 personnages, les phares d'une voiture, la nuit.
C'est bien pour le noir et blanc.
Puis on zappe, alors complètement, dans le hall d'attente, dans le lobby d'une banque de luxe, avec 2 nouveaux personnages. Peut-être les mêmes, qui sait ? On ne sait pas. L'un des personnages, qui va revenir tout au long des 4 nouvelles, prend ses décisions à l'aide d'une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes qu'il a dans la poche, et il compte les allumettes. Si c'est pair, il dira oui. Si c'est impair, il dit non. Il y a aussi des femmes. Ceux qui ont lu Carlos Salem savent que c'est un incorrigible romantique. Ceux qui l'ont vu aussi, d'ailleurs.
Romantique, oui.
Oui. Des femmes dont une revient surtout, Lola la barmaid. C'est celle qui est en couverture, sur la couverture de livre, avec la seule petite tache de couleur de la bande dessinée, c'est les oranges des cheveux quand même assez, et le vert, l'orange du vert, puisqu'il y a une barmaid. Sans tout raconter, il faut revenir surtout en fait au dessin de Laureline Mathiusi. Elle a choisi de ne pas faire des dessins hyper réalistes, même si on reconnaît très bien à un moment, dans les décors, la carcasse d'une vieille 205 GTI. Les personnages n'ont que quelques traits dans des décors qui, eux, par contre, sont plus précis. Les flingues, certains meubles. Elle réussit très bien aussi à donner aux hommes, aux femmes, un certain flou, disons. Le flou poétique des personnages de Carlos Salem. On n'est pas dans un conte, ni dans la vraie vie. En fait, on est quelque part entre les deux. Et la dessinatrice réussit parfaitement ce challenge de nous plonger là-dedans. Rajoutons qu'elle, c'est elle qui a aussi fait l'adaptation donc, de ces nouvelles, les reliant entre elles pour faire donc une BD unique qui est une histoire qui se tient, qui est entière, comme une histoire de Carlos Salem. On ne sait pas tout à la fin, bien évidemment.
Disons que passe par, des fois par des détours.
Voilà. Mais ceci dit, ça n'a pas dû être une mince affaire d'adapter ces nouvelles, l'univers de Salem dans une bande dessinée. Et en fait, elle a parfaitement réussi. Elle a commencé, je suppose, par le faire sien, en plus le retranscrire en dessin, du noir et blanc, des traits, des aplats. Et enfin, c'est le lecteur qui, lui, rentre dans son univers, qui, en fait, entre-temps, c'est devenu presque plus l'univers de Laureline Mathiusi que celui de Salem. Conclusion, en fait, c'est totalement réussi, prenant, envoûtant jusqu'à l'épilogue, qui lui, en fait, cet épilogue donne juste envie de repartir au début de la BD, rien que pour voir si on lit l'histoire de la même façon une fois qu'on l'a lu en entière. C'est pas forcément vrai.
Mais c'est très intéressant.
Alors,
est-ce que je peux apporter une petite précision ?
Vas-y.
Parce que tu as parlé de flou. Tu devais avoir un peu de flou dans les yeux parce que ce n'est pas du tout la belle chevelure orange de la femme qui est dessinée sur la couverture. C'est tout simplement le drapé de son fourreau. Elle a une superbe robe et c'est
vrai qu'il est
la robe qui s'échappe.
Voilà, il est en parallèle avec ses cheveux sur la couverture.
Tout à fait.
Donc, Mathiusi, je viens de m'échapper du ciel. D'après Carlos Salem, chez Casterman Écriture.
Eh bien, on vous souhaite de lire de bons romans, comme entre autres peut-être ceux que l'on vient de vous conseiller. Et on vous dit dans pas longtemps, dans une quinzaine de jours.
Amis du Noir, bonsoir.
Chacun dans son coin avec un bon bouquin.